Cette émission vous est proposée en partenariat avec l'Association européenne de radio Euranet.
Carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Europejskie skrzyżowania.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Les Allemands votent et Angela Merkel est la grande favorite du scrutin. Après 4 ans de grande coalition, tous les sondages le prédisent, le gouvernement d'Union nationale a mieux réussi à la chancelière qu'à son partenaire et rival social-démocrate Frank-Walter Steinmeier. Avec qui Angela Merkel gouvernera-t-elle demain? Les libéraux ont sa préférence, mais si les socialistes du SPD résistent mieux que prévu, la grande coalition pourrait se poursuivre. À suivre également le score de Die Linke, le parti à gauche de la gauche qui apparaît de plus en plus incontournable dans le paysage politique outre-Rhin. Les enjeux de l'élection allemande, ce sera dans la deuxième partie de Carrefour de l'Europe. Le français deviendrait-il une langue rare en Europe et plus encore à Bruxelles, dans les couloirs des institutions européennes? En tout cas, à l'occasion de la Journée européenne des langues, un constat s'impose. Les institutions européennes sont confrontées à une pénurie d'interprètes en langue française, nous dira Marco Benedetti, le directeur général de l'interprétation à la Commission européenne. Paul Larouturou a scruté la toile. L'évacuation de la jungle de Calais, où plusieurs centaines de migrants avaient trouvé refuge, a mobilisé les journalistes et les vidéastes amateurs venus de tout le continent. Ce sera le buzz de Carrefour de l'Europe. Macha Makeyev et Jérôme Deschamps, les inventeurs des Deschiens et de la compagnie théâtrale éponyme, nous feront partager leur vision de l'Europe. Dans un instant, le regard européen de Courrier International avec notre complice Éric Maurice. Mais tout de suite, le mot et le chiffre européen de la semaine avec vous, Piotr Mojinski. Bonjour Piotr.
Bonjour Daniel.
Le mot c'est il fatto, ce qui veut dire le fait en italien.
C'est le titre d'un nouveau journal italien, Il Fatto justement, créé par un groupe de journalistes indépendants. Le journal lui-même se veut justement indépendant de tout pouvoir politique et économique.
Et notamment
de Silvio Berlusconi en personne, évidemment. Ceci dit, l'orientation politique du journal est tout à fait claire. La rédaction est composée de journalistes qui viennent de deux journaux de gauche, l'Espresso et l'Unita, donc l'orientation politique est claire, mais en même temps, il y a deux contextes de la création de ce journal, le contexte italien évidemment, mais aussi un contexte plus général. Le contexte italien, c'est évidemment la mainmise de Silvio Berlusconi, le premier ministre italien, sur les médias. Rappelons brièvement que lui-même est propriétaire de 3 chaînes de la compagnie Mediaset, et il contrôle également au moins 2 chaînes de la télévision publique. Donc c'est vraiment un marché très 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 difficile, et les résultats sur le métier de journalisme en Italie sont bien visibles. C'est donc une réaction directe à cette mainmise de Silvio Berlusconi sur les médias italiens. Mais il y a aussi, je pense, un contexte plus général. Remarquons simplement que aussi en France, il y a l'apparition sur le marché d'un nouveau hebdomadaire, Bakchiche, qui est la version papier d'un site internet. Et je pense que dans ce contexte général, on pourrait dire d'une réaction à l'uniformisation des médias qui est en train de se produire en Europe, suite essentiellement aux 3 facteurs. D'abord la crise économique qui provoque des fusions, donc l'uniformisation un peu du marché lui-même. Ensuite, la standardisation de la communication politique qui a aussi ses conséquences sur le métier du journalisme. Et finalement, l'accès massif du grand public à l'Internet qui fait que pratiquement tout un chacun peut devenir journaliste et ça a aussi une incidence sur le métier.
Alors le lancement d'un journal, vous l'avez dit Piotr, par les temps qui courent, c'est indubitablement un fait à signaler et à souligner. Le chiffre, ou plutôt les chiffres, c'est 31 contre 27, Piotr.
Exactement, c'est le résultat du vote du comité exécutif de l'UNESCO. Donc 31 voix pour Irina Bokova, l'ex-ministre des Affaires étrangères et actuelle jusqu'à mercredi ambassadeur de la Bulgarie en France. contre, 27 voix pour Farouk Hosni, le ministre égyptien de la culture depuis 22 ans. Vous voyez tout de suite qu'il y a en fait deux nouveautés qui s'affrontaient lors de ce vote. On s'est beaucoup focalisé sur la défaite de Farouk Hosni, sur la défaite de la diplomatie égyptienne. On disait dans la presse surtout du monde arabe, la défaite du monde arabe dans cette compétition.
Alors, à contrario, on peut dire que c'est la victoire d'une femme et d'une femme venue de l'Europe de l'Est.
Voilà, voilà. C'est que face au premier directeur potentiel de l'UNESCO provenant du monde arabe, il y a eu une première femme candidate à ce poste et aussi une première représentante des anciens pays communistes. C'est vraiment un événement, car les anciens pays communistes essaient de se frayer le chemin sur la scène mondiale politique et cherchent vraiment une place dans la communauté internationale après des décennies sans indépendance. C'est très important pour eux. Et remarquons, après Yeşe Buzek qui vient de devenir le président du Parlement européen, maintenant Irina Bokova à la tête de l'UNESCO, c'est très significatif, c'est très optimiste pour ces pays, et j'en parle même pas de l'importance symbolique du fait qu'il s'agit d'une femme, non seulement pour l'Europe, mais aussi pour le monde arabe.
Merci Piotr.
Le regard de Courrier International.
Bonjour Éric Maurice.
Bonjour.
Cette semaine, Courrier International consacre sa couverture et son dossier aux élections allemandes avec un regard appuyé sur Die Linke, le parti d'Oscar Lafontaine. Une gauche de gauche, titrez-vous. On y reviendra nous aussi dans la deuxième partie de Carrefour de l'Europe, mais l'article qui a retenu votre attention, Éric, nous vient de Russie, où l'on reparle du retour de la vodka d'État. Ce serait pour la bonne cause, la lutte contre l'alcoolisme. Une petite explication tout de même, Éric.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du mois de septembre, le président Dmitri Medvedev a écrit une lettre ouverte dans la presse russe, alarmant de l'état économique et social du pays, et notamment ce fléau qu'on connaît bien depuis les années 90 de l'alcoolisme en Russie. L'article de Vremya Novosti que nous publions cite le chiffre de près de 3 millions de Russes qui seraient ce jour la proie d'un alcoolisme profond, et un alcoolisme qui aurait causé la mort de plus de 75 000 Russes depuis 2007. Alors, ce que voudrait faire Dmitri Medvedev pour lutter contre cet état de fait, c'est d'instaurer un monopole sur la production et la distribution d'alcool, que ce soit des usines d'État, des distilleries d'État et des magasins d'État qui fournissent cet alcool. Mais ça pose beaucoup de problèmes, même au pays, l'ex-pays du communisme, qui pourtant a l'habitude de ces monopoles, car en fait aujourd'hui près de 60% de la vodka ingérée en Russie est produite de manière illégale, donc le marché est très difficile à réguler. Et surtout, il y a beaucoup de problèmes, c'est que cette vodka illégale, c'est des produits nettoyants, c'est de la vodka illégalement distillée.
Oui, mais ça n'a de vodka que le nom. Hein.
Voilà, il suffit que ce soit un produit avec de l'alcool pour que les gens boivent. Et donc l'autre idée de Dmitri Medvedev, c'est de mettre un prix plancher pour limiter l'achat et la consommation d'alcool. Or, déjà en Russie, si on compare aux revenus moyens, l'alcool est très très cher, et donc ça ne changerait rien. Il faudrait presque, c'est un spécialiste qui le dit dans l'article, il faudrait presque que l'État produise de la vodka pas chère, justement, pour que les gens ne boivent pas moins, mais qu'ils boivent mieux pour vivre plus longtemps. Et surtout, si c'est pour récupérer de l'argent, eh bien c'est absurde, car l'État détient déjà 40% des alcools et 25% de la production, et pourtant ces entreprises sont moins rentables que les entreprises privées. Donc finalement, il y a un débat autour de cette proposition du président Medvedev.
Et un problème qui perdurera même si la vodka devient produite directement par l'État. Merci Eric. Cet article et bien d'autres à lire cette semaine dans Courrier International.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Le buzz, autrement dit la vidéo qui bourdonne sur Internet, nous vient de la RTBF, la télévision publique belge. La télé belge s'intéresse régulièrement à l'actualité française et ses caméras étaient présentes bien sûr à Calais, comme celles de nombreuses télé européennes cette semaine. Bonjour Paul Larouturou.
Bonjour Daniel.
Sur son site, la RTBF propose des images brutes, des rushs comme on dit, de l'évacuation du camp de fortune de ces immigrés qui veulent toujours gagner l'Angleterre. Des immigrés pour la plupart afghans qui se regroupaient dans ce que l'on a nommé, Paul, la jungle de Calais.
Exactement, Daniel, en pachtoune, le mot forêt se dit djangal, ce qui a donné jungle pour les médias et les politiques français. Alors les Afghans vivaient dans cette zone industrielle, près de parkings où ils essayaient de monter dans des camions embarquant ensuite sur les ferries gagnant l'Angleterre. Alors le problème n'est pas nouveau. On se souvient de la très médiatique fermeture du camp des réfugiés de Sangatte en 2002. 7 ans plus tard, Éric Besson, le ministre de l'Intérieur, a de nouveau invité la presse à assister à l'expulsion des étrangers.
Alors sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit ?
Eh bien, comme la plupart des migrants étaient avertis, ils ont quitté la zone. Ceux qui sont restés s'estimaient protégés par le statut de mineurs étrangers isolés. On voit donc la police qui encercle la zone. Les migrants n'opposent aucune résistance, mais les militants altermondialistes de l'association No Border, pas de frontières en anglais, tentent d'empêcher les interpellations. Les policiers extraient donc les migrants un à un de manière musclée. On y voit la détresse de jeunes hommes dignes mais désespérés, souvent en pleurs. On entend aussi la colère de ceux qui essayent de les aider. Un policier motive ses collègues. Une militante console un homme qui sanglote dans ses bras. Un peu plus loin, un homme à terre, recroquevillé sur son mégaphone, essaye d'oublier sa peur en criant les slogans des militants anti-frontières. Oui, no border, no nation, no deportation. En français, pas de frontières, pas de pays, non aux déportations. À l'issue de cette expulsion où il y avait quasiment autant de journalistes que de policiers, le ministre a salué, je cite, « la délicatesse des forces de l'ordre ». Il a aussi ajouté « c'est la fin de la loi de la jungle ».
Alors en tout cas, en 2 heures, 500 policiers ont interpellé 276 étrangers pour être précis, dont une dizaine de passeurs et 135 mineurs. Pourtant, les candidats à la traversée de la Manche sont évidemment bien plus nombreux que ça.
D'après le quotidien Libération, il y aurait entre 800 et 2000 migrants sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais. Ils sont afghans, érythréens, somaliens, soudanais. Mais comme après la fermeture du centre de la Croix-Rouge de Sangatte, situé à seulement 10 km de Calais, les migrants ne renoncent pas. Ils se dispersent. Les images de Calais ne seront donc pas les dernières. On peut être sûr que bien d'autres vidéos poignantes viendront émouvoir la toile.
Merci Paul. La jungle de Calais ou le symptôme européen d'une immigration immaîtrisable. La présidence suédoise de l'Union européenne devrait d'ailleurs annoncer des propositions pour une politique plus européenne de l'immigration lors du prochain Conseil européen. Il est prévu en octobre. Cette vidéo est à voir sur la page de l'émission. C'est très simple. Tapez Carrefour de l'Europe RFI sur votre moteur de recherche. Cherche pour y accéder en un clic.
Carrefour de l'Europe.
Hier, assez discrètement, il est vrai, on a célébré la journée européenne des langues. Un constat, partout en Europe, l'anglais prospère et les derniers élargissements de 2004 et 2007 ont confirmé une tendance qui s'était déjà manifestée dès 1995 lors de l'arrivée au sein de l'Union européenne, de l'Autriche et des pays nordiques et scandinaves. L'usage du français recule dans les institutions européennes, mais c'est aussi le cas de l'allemand, de l'italien ou de l'espagnol, à tel point que les institutions européennes sont confrontées à une pénurie d'interprètes en langue française. Et pourtant, à Bruxelles, capitale francophone, on parle le français. Marco Benedetti, le directeur général de l'interprétation à la Commission européenne.
À Bruxelles, on parle beaucoup français dans la rue. Dans les institutions internationales, on parle de plus en plus l'anglais, c'est vrai. Après les élargissements, notamment de 2004 et 2007...
C'était les pays d'Europe centrale et orientale.
Oui, même dans la rue, on entend de plus en plus l'anglais, parce que c'est la langue qu'ils connaissent mieux, au détriment du français.
Paradoxalement, vous êtes à la tête du pôle interprétariat et traduction à la Commission européenne. Le français qui est pourtant parlé beaucoup à Bruxelles, vous manquez d'interprètes en français.
Je suis directeur général de l'interprétation, donc je m'occupe de la partie orale, je ne m'occupe pas de la traduction écrite. Cela dit, la pénurie existe dans les deux domaines et elle est due essentiellement à deux raisons. Premièrement, qu'on apprend moins les langues étrangères qu'avant ou assez de langues étrangères. On se concentre surtout sur l'anglais et ça ne suffit pas, c'est important, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas pour un professionnel de la communication linguistique. Et puis, la deuxième raison, c'est que c'est une profession très spécifique, très exigeante, et qu'on ne la connaît pas assez. Les gens se disent, apprendre des langues, faire des études linguistiques, pourquoi ? Pour devenir prof de langue, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'ils sachent qu'il y a aussi des débouchés très intéressants dans le domaine de l'interprétation et de la traduction qui peuvent vous donner un travail tout de suite après votre diplôme et des conditions de rémunération très intéressantes.
Alors, si on se projette un petit peu dans les 5 ans, dans les 10 ans, à quoi va ressembler l'Europe des langues?
Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'anglais, pas du très bon anglais nécessairement, un peu basique, mais je pense que, et j'espère, que l'initiative que la Commission a prise d'encourager l'apprentissage de au moins 2 langues étrangères dès le début de la scolarité portera ses fruits et que les Européens s'attacheront à apprendre une grande langue de communication qui peut être l'anglais mais qui peut être aussi le français par exemple et comme on dit la langue du voisin pour que les rapports entre Européens et surtout Européens voisins soient de plus en plus spontanés et approfondis.
Alors on dit, mais peut-être que c'est une illusion, qu'on parle quand même de plus en plus de langues et que par exemple en France l'apprentissage de l'anglais et des autres langues progresse, en tout cas c'est une idée répandue. C'est pas si vrai que ça ?
Je pense que les résultats que nous voyons, c'est que effectivement l'apprentissage de l'anglais est partout, mais comme je le disais tout à l'heure, on a besoin aussi, et je pense que c'est dans l'intérêt de la communication et du multilinguisme en général, de mettre l'accent sur l'apprentissage d'autres langues.
Est-ce qu'il y a un pays un peu moteur, un pays un peu modèle parmi les 27 pays de l'Union ?
Je crois que la pénurie de spécialistes des domaines linguistiques est généralisée dans l'Europe entière. Bien sûr, la Belgique est un pays multilingue par définition, le Luxembourg aussi. Donc là, effectivement, la connaissance des langues étrangères est plus élevée.
Mais un Letton qui parle le grec, c'est très rare.
Je n'en connais pas. Mais bon, nous avons, dans la technique de l'interprétation, ce que nous appelons le relais, c'est-à-dire le passage par une langue pivot, par une langue plus connue et plus parlée, qui est généralement l'anglais, mais qui peut être aussi, je le répète encore, le français.
Sur la page internet de l'émission, vous trouverez un lien avec le clip « Interpréter pour l'Europe » pour tout savoir sur les métiers de l'interprétation en Europe.
L'Europe, 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 c'est cela, l'Europe.
À la scène comme à la ville, Macha Makeyev et Jérôme Deschamps sont inséparables. Alors ensemble, ils ont créé la compagnie théâtrale Les Deschiens et c'est en duo qu'ils parlent de leur vision de l'Europe.
C'est un des rares beaux projets pour la jeunesse d'aujourd'hui et pour nous. Et puis je pense aux années 20 où l'Europe artistique existait vraiment et elle m'a fait tellement rêver. Qu'on rêve qu'elle revienne et qu'il n'y ait plus du tout de ce genre de frontière. Cette frontière, qui est une frontière mentale et qui est évidemment une frontière historique encore, mais qui, je pense que l'avenir proche va faire disparaître tout ça. Mon rêve serait de voir la Russie intégrer l'Europe un jour.
Jérôme Deschamps.
Mais écoutez, moi je pense un peu à quelque chose d'inachevé aussi. C'est, en tout cas sur le plan culturel, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'en France, on a un tas de mécanismes de soutien pour le cinéma, pour le spectacle vivant aussi, qui sont tout à fait exceptionnels et qu'on devrait exporter d'urgence. Si j'avais juste un vœu à formuler, ce serait que on soit copié pour qu'on voit émerger un cinéma aussi fort dans les pays qui sont proches de nous. On ne peut pas ignorer tout ce qui s'est passé, les affrontements cruels qui ont agité tous ces pays et de façon épouvantable. Mais je pense que la crise économique que nous traversons devrait être une occasion de faire un bond en avant sur la réunion de l'Europe, sur la mise en place de mécanismes forts. C'est vrai que je pense d'abord à la culture, parce que je pense que quand on a des difficultés simplement économiques, la culture est plus que jamais indispensable à la vie. C'est une façon de s'en sortir et sans doute la plus belle.
Alors, on va rêver un instant, Macha Makeyev, Jérôme Deschamps, dans vos rêves les plus fous, l'Europe ressemble à quoi ?
L'Europe, c'est d'abord une chose géographique, donc je vois une étendue géographique avant tout, sans aucune barrière.
Moi, je verrais bien la beauté se développer, y compris la beauté architecturale. Il y a encore bien des lieux qui sont laids, y compris à Paris, mais pas seulement. Il y a des lieux épouvantables et je verrais bien ça aussi se modifier, ces paysages qui ne sont pas toujours très beaux de par les constructions, quelquefois misérables d'ailleurs, il faut le dire, et aussi quelquefois l'aide qui s'y trouve, à côté de la beauté trop rare.
C'était le regard européen de Macha Makeyev et de Jérôme Deschamps. On se retrouve dans 3 petites minutes pour la deuxième partie de Carrefour de l'Europe, élection en Allemagne, la victoire annoncée d'Angela Merkel.